Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Merci d'être aussi fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Question Politique qui reste grâce à vous et de loin le premier rendez-vous politique du week-end et vous démontrer que la politique peut intéresser, qu'elle peut même passionner et ça nous réchauffe le cœur et ça nous donne l'envie de poursuivre et de continuer. Notre invité aujourd'hui, c'est une figure majeure de la vie politique française et il est en pleine campagne, campagne au pluriel. Il mène deux campagnes simultanément, d'abord pour les élections régionales. On sait maintenant qu'elles auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Le Premier ministre le confirmait cette semaine. Il est aussi en campagne pour l'élection présidentielle. Lui qui a quitté les Républicains, réussira-t-il à rallier derrière lui l'ensemble de la droite? Et il nous dira aussi là où on est le plus efficace pour mener l'action publique. Est-ce que c'est à l'échelle régionale, locale ou à l'échelle nationale dans un pays jacobin et encore très centralisé? Nous sommes en direct jusqu'à 13h avec le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Nous reviendrons évidemment avec lui sur les grands enjeux politiques qui font l'actualité et ceux qui seront déterminants dans la France de demain.
France Inter, Question Politique, Ali Badou.
Bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Et bienvenue l'équipe de Questions Politiques. À mes côtés, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Solène de Royer du journal Le Monde. Bonjour Solène.
Bonjour à tous.
Et Karine Bécart de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Bonjour
Karine
à toutes.
Qui a préparé votre portrait, Xavier Bertrand, et nous le découvrirons tout à l'heure. Nous voulions commencer cette émission avec un chiffre, un cap qui était franchi cette semaine. L'hécatombe du Covid-19 a fait plus de 100 000 morts en France. J'aimerais savoir ce que ce chiffre dit pour vous. Est-ce qu'il suffit à prendre la mesure de cette tragédie que nous traversons? Et faut-il, en France, un hommage national à ceux qui en ont été les victimes? Un hommage national comme en Allemagne, comme au Royaume-Uni, comme dans d'autres pays?
Il faudra un hommage national. Il faudra un hommage national à la fois de solidarité, de compassion, et peut-être aussi surtout pour toutes les familles, tous les membres des familles qui n'ont pas pu dire bien au revoir. Le moment n'est pas encore fixé, ne peut pas être fixé, c'est quand on sera sorti, quand on sortira de la Covid. Ça sera aussi une façon de rendre hommage, parce qu'on ne les applaudit plus en ce moment, à tous nos soignants, aussi à tous ceux qui, sans perdre la vie, ont été blessés, à tous ceux qui ont souffert, notamment beaucoup d'acteurs économiques, des commerçants, des entrepreneurs, le monde de la culture.
Pardon, le moment de l'hommage n'est pas encore venu.
Je pense que le cap des 100 000, c'est pas un chiffre. C'est autant de familles qui ont perdu l'un des leurs. Et qui ont perdu l'un des leurs dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Les rites funéraires, ça a aussi une symbolique. Ces rites funéraires n'ont pas pu avoir lieu comme c'est le cas d'habitude. Et je pense que nous ne réussirons à nous reconstruire, à dépasser le Covid, que quand ce deuil-là aura été fait dans son ensemble. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance. Je vois que les Allemands le font aujourd'hui.
Oui.
Il y a d'ailleurs toute une cohésion, toute une union nationale autour de cet événement. Je pense que nous en avons besoin aussi en France.
Nathalie Saint-Cricq.
Vous pensez qu'on a besoin effectivement d'une symbolique pour tout le pays ou est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin d'une commission d'enquête pour savoir exactement tout ce qui n'a pas marché? Est-ce que finalement ces hommages perpétuels et ces commémorations successives, c'est pas quelque chose qui finalement est un peu facile à faire et pas forcément toujours très utile?
Vous avez raison, il y a deux choses différentes. Deux choses différentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commémorations, il y a beaucoup de rendez-vous mémoriels, mais là je pense qu'il en faudra un. Là pour moi c'est incontournable. Et il y a une deuxième chose. Comment ne plus jamais vivre cet état d'impréparation? Comment nous préparer? Nous l'avons été à différentes époques, mais nous n'avons jamais eu à affronter une épidémie comme celle-ci. Et celui qui dira, oui, mais il y a eu la Covid, maintenant on est tranquille, celui-là sera un fou, un irresponsable, un incompétent. Donc nous devons, en permanence, nous préparer et tirer toutes les leçons, tous les enseignements. Et vous avez raison, c'est vrai sur le plan national, c'est vrai aussi sur le plan européen,
et on va en
notamment
parler,
sur
évidemment.
La question des vaccins.
Mais justement, puisque vous êtes dans les Hauts-de-France et que vous voyez les falaises de calcaire du Royaume-Uni de l'autre côté de la Manche, qu'est-ce que ça vous inspire, la situation là-bas? La campagne de vaccination qui a des résultats bien plus importants qu'en France et la possibilité de retrouver quelque chose comme une vie normale. On a vu que les pubs, c'est un symbole, ouais. On rouvre vers à Londres, par exemple.
Bon, la gestion du Covid n'a pas été parfaite de A jusqu'à Z au Royaume-Uni. Il n'y a aucun pays, dans toutes ces circonstances-là, dont on peut se dire, c'est le seul exemple, peut-être la Nouvelle-Zélande, peut-être la Nouvelle-Zélande, mais autrement, force est de reconnaître qu'il y a eu aussi des difficultés. En revanche, Boris Johnson a tout misé sur la vaccination. Il a non seulement pris un risque en commandant à AstraZeneca, il y a eu une organisation quasi-militaire, il y avait une personne, pas 36, qui s'occupait de la vaccination, une dame qui avait quitté ses fonctions privées, et il n'y avait pas non plus la cacophonie des expressions, et ça fonctionne, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une véritable réussite. Mais prenez le point le plus important. Il a voulu un vaccin, et il a eu son vaccin, et il a pris un risque. Si ça n'avait pas fonctionné, on aurait pu le critiquer, mais le rôle d'un responsable politique, c'est la prise de risque. Alors, il n'est pas le seul à le faire. Moi, vous savez, j'ai jamais été fan de Monsieur Trump. Mais en attendant, Donald Trump a dit à l'époque, je veux un vaccin, je mets les moyens sur la table pour l'avoir, et c'est aussi comme ça que nous avons Pfizer.
Quid de la stratégie française, quid de la stratégie vaccinale française, Xavier Bertrand? Vous avez été très sévère au début, vous avez parlé même de fautes graves ou de fautes gravissimes. Maintenant, les doses arrivent, le rythme s'accélère. Vous prenez acte?
Écoutez, on n'a qu'une envie. Au-delà de l'inquiétude encore avec le Covid, au-delà de la lassitude, c'est que ça marche et qu'on sorte du Covid et on en sortira principalement par la vaccination. C'est vrai, en début d'année, c'était début janvier, je disais que cette stratégie nous amenait dans le mur. Elle a été en partie rectifiée. Je regrette une chose, c'est de pas l'avoir dit encore plus fort et encore plus tôt. Parce qu'en septembre dernier, j'étais au Sénat devant la commission d'enquête en tant qu'ancien ministre de la Santé et j'avais moi-même indiqué en septembre que le rendez-vous qu'on ne pourrait pas manquer après les masques et après les tests, ce serait le rendez-vous des vaccins. Force est de reconnaître que sur ce sujet aujourd'hui, on nous dit l'accélération très bien. Mais moi, je préférerais qu'on ait une vraie campagne de vaccination plutôt qu'une campagne de communication. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, et notamment à Marc, à côté de Calais, il y a des centres de vaccination qui sont fermés. C'est pas parce qu'il n'y a pas de candidats, c'est parce qu'il n'y a pas de doses de vaccins. Il y a des doses aussi qui arrivent dans d'autres centres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a qu'une envie que ça arrive. Et quand on nous dit que les plus de 55 ans vont pouvoir être vaccinés, et qu'on nous dit que ça va être le tour des enseignants, et notamment des forces de sécurité, de plus de 55 ans, mais c'est le cas pour toute la population. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. La seule chose qui compte, c'est que ça arrive, que ça arrive vite et qu'on associe tout le monde. J'ai fait des propositions en tant que président de région depuis maintenant le mois de février, début février. Seulement maintenant, on nous dit, on va travailler avec vous. Il faut pas perdre de temps.
Mais il y a aussi des problèmes avec certaines doses de vaccins. Je pense évidemment à l'AstraZeneca. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, certes. Je parle aussi, vous l'avez rappelé, à l'ancien ministre de la Santé. On fait quoi avec les doses d'AstraZeneca? Comment le gouvernement doit gérer? Est-ce qu'on continue à faire avec? Est-ce qu'on continue à faire sans? Comment on fait pour rassurer les Français vis-à-vis de ce vaccin dont certains ne veulent plus?
Xavier Bertrand. On fait avec, déjà. Et il ne faut pas non plus oublier ce qui s'est passé. C'est qu'on a eu un jour le Premier ministre qui nous dit que c'était un bon vaccin. Le lendemain, le président qui décide avant l'Europe de dire on suspend.
Il ne pouvait pas ne pas suivre l'Allemagne, excusez-moi.
Oui,
quand l'Allemagne,
mais...
sans nous prévenir,
oui,
suspend
le problème
l'AstraZeneca,
n'est pas de suivre
on
les
peut pas
autres.
Être en ça.
C'est de suivre en fonction de l'intérêt général et de la dimension scientifique des choses. Parce que encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le problème que nous avons en France, c'est qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont habilitées à s'exprimer. Mais bon sang, depuis le début, comme en Grande-Bretagne, une personne qui parle et les autres se taisent.
Mais comment on redonne
confiance?
S'il n'y
avait pas eu cette cacophonie, les Français auraient pu aussi davantage s'y retrouver. Donc ce vaccin, moi demain on me propose de me faire vacciner avec AstraZeneca, je me ferai vacciner avec AstraZeneca. Et hier encore je parlais avec personnes que je connais qui ont eu ce vaccin, les choses vont très bien, vous savez.
Mais il faut
tout médicament,
choisir.
Tout vaccin, c'est ce que l'on appelle le bénéfice risque.
Oui.
Le bénéfice l'emporte largement sur les risques de contracter ce satané virus. Alors on y va avec AstraZeneca. Mais une communication positive, en réexpliquant bien les avantages, les cas qu'il peut y avoir en toute transparence. Depuis le début, vous me le disiez tout à l'heure, je pense que pour traverser des crises comme celle-ci, qui sont inédites, où rien n'est facile, c'est la vérité sur les commandes, sur les doses qui arrivent, et c'est la transparence. Les deux. Quand vous faites ça, vous êtes capable de susciter la confiance de nos concitoyens.
Sur l'AstraZeneca, vous considérez qu'il faudrait qu'il y ait, un certain nombre de gens célèbres, de chanteurs, de politiques, que tout le monde ait une campagne généralisée pour dire « Allez-y, c'est pas dangereux, vous avez parlé de vous, on a vu Jean Castex, vous pensez qu'il faut vraiment mettre un coup d'accélérateur là-dessus »
Xavier Bertrand.
Je suis pas sûr que ce soit Les personnalités.
Je ne sais pas.
Je sais pas quels seraient les critères d'ailleurs pour choisir
juste
ces personnalités qui feraient la différence. Je
bah, pense vous allez que regarder le match du PSG, Mbappé par exemple.
Je pense que
même si il est trop jeune.
Alors, si j'ai un choix à faire sur les priorités vaccinales, pour moi, ce ne sont plus les critères d'âge qui doivent rentrer en ligne de compte à partir du moment où les plus fragiles ont été vaccinés.
Donc, on fait sauter la priorisation.
C'est tout le monde?
Sur les non. À partir du moment où les plus fragiles, à peu près 15 millions de Français, là les vraiment les plus âgés ou ceux qui ont des cas de comorbidité comme l'on dit, 15 millions de personnes. À partir du moment où ceux-là sont vaccinés, je pense qu'il faut changer les priorités vaccinales avec ceux qui travaillent en première ligne, qui ne télétravaillent pas.
Alors qui sont-ils?
Il y a notamment les soignants, c'est fait, c'est lancé depuis longtemps et c'est normal.
Les enseignants.
Vous avez les enseignants. Tous les enseignants qu'ils souhaitent, le personnel également qui n'est pas du personnel enseignant, qui est aussi dans les écoles, les collèges et les lycées, les forces de sécurité, et puis aussi...
C'est déjà le cas là, les gendarmes, les pompiers...
Pour les plus de 55 ans, comme pour la population, je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais jusqu'au bout. Également tous ces travailleurs qui ne télétravaillent pas, qui sont plus exposés que les autres, qui peuvent aussi contaminer plus de personnes, mais même s'il y a moins de clients aujourd'hui, un chauffeur de taxi est en contact avec beaucoup de monde. La caissière... Dans une supérette ou dans un hypermarché, elle est au contact. Ceux des ouvriers qui doivent tenir leur place et qui sont au contact, même avec les gestes barrières, de leurs collègues, notamment les agents de sécurité.
Tous ceux qu'on a appelés, ceux qui étaient en
première
ligne.
À l'entrée de cet immeuble, les personnes qui s'occupent de la propreté, tous ces salariés de la deuxième ligne, la première ligne c'était les soignants, ceux-là, on doit leur proposer en priorité. C'est pour les protéger. C'est de récompenser aussi ce qu'ils symbolisent comme valeur travail, mais c'est aussi parce qu'ils peuvent aussi en contaminer d'autres. Donc pour moi, il faut un changement dans les priorités en leur proposant à cela.
Juste la piste de l'obligation de se faire vacciner, ça vous a effleuré à un moment donné en vous disant ce serait quand même quelque chose peut-être d'efficace?
Obliger sans convaincre, ça marche pas.
D'accord.
Explication?
Je l'explique.
Il y a
depuis,
des choses, par exemple,
depuis
dont nous ne sommes pas toujours convaincus, et pourtant qui nous obligent.
Oui, mais attendez, vous prenez les soignants. Stein avait dit, il faut vraiment les obliger. Et s'ils ne veulent pas, vous faites quoi? Vous les mettez à pied, soyons sérieux. On a besoin qu'ils soient sur le pont. Il faut jouer sur l'aspect de responsabilisation. Et pour responsabiliser, faut convaincre.
Comment faire de la politique et comment mener campagne, Xavier Bertrand, en pleine épidémie? C'est une question qui est posée. Jean Castex donc annoncé ce décret qui fixe les prochaines élections régionales au 20 et 27 juin prochain. Une semaine de vaccination de gagner par rapport au calendrier initial. Ce serait 2 millions de personnes vaccinées en plus, disait le Premier ministre. Mais malgré tout, comment... Tout simplement s'adresser aux électeurs, essayer de mobiliser pour une élection, pour un scrutin dont on sait qu'il ne mobilise pas spontanément.
On a trouvé à un moment donné cette distinction inimaginable entre les commerces essentiels et non essentiels. Il n'est pas question de faire une différence entre des élections essentielles et non essentielles. Et d'ailleurs, l'un des grands regrets que j'ai sur toute la conduite de la gestion de crise, c'est que la démocratie en elle-même a été bousculée. Elle a été affaiblie. Je vous ai parlé tout à l'heure, vérité et transparence. Je suis intimement convaincu qu'il y avait une autre attitude à tenir à l'égard du Parlement. On ne fait pas voter le Parlement quand les décisions ont déjà été prises. On sollicite un débat en amont sur différentes hypothèses et chacun prend ses responsabilités. Les séances de questions au gouvernement, Assemblée, Sénat, ça ne suffit pas. Je pense que chaque semaine, j'aurais imaginé, j'aurais voulu, j'aurais mis en place un vrai débat, mais pas un débat d'une heure où on se parle deux minutes et où on ne se répond pas, où on entend les options, les propositions des uns et des autres.
Mais les différentes forces politiques sont régulièrement consultées, dit le gouvernement.
Demandez aux représentants des groupes parlementaires et des partis politiques comment ça s'est passé. C'était un jeu. On ne voulait pas dire, on voulait avoir leur avis sans donner tous les éléments. C'est important d'avoir aussi toutes les données épidémiologiques, scientifiques, solides, dont dispose le gouvernement. J'ai été ministre auprès de Jacques Chirac,
donc,
ministre. Nous avons des éléments d'information que tout le monde n'a pas. Et puis il y a aussi ensuite un autre aspect. Le Conseil de défense une fois que les décisions sont prises, on devrait savoir sur quel fondement ça a été pris. C'est pas un conseil de guerre. Là, le virus n'est pas un ennemi qui chercherait des secrets. Donc jouer la transparence, jouer la carte de la vérité, je pense que c'est quelque chose d'incontournable, encore une fois, pour avoir la confiance.
Mais vous regrettez surtout l'absence de commission d'enquête parlementaire. Il y en a eu une qui a fonctionné pendant 9 mois et elle a disparu effectivement en janvier dernier. Ça permettait de savoir ce qui se passait quand même là.
C'est pas le tout, la commission d'enquête. Moi, j'ai participé aux travaux, j'ai été invité à y participer pour expliquer comment, sous Jacques Chirac, nous avions préparé la France en termes de masques, en termes d'équipement, en termes de stratégie. Et en étant avec un maître mot, l'anticipation, mais Assemblée et Sénat, ça s'est arrêté très vite, trop vite, j'en suis intimement convaincu, mais je vous dis que ça ne se résume pas à une commission d'enquête. C'est le rôle normal de la démocratie. Et prenez notamment pour les présidents de région que nous sommes,
oui.
Nous avons depuis maintenant des mois et des mois, n'avons même pas de visio, de réunion avec le Premier ministre, une fois au tout départ, alors que bon, le système, vous allez me dire, est différent, mais en Allemagne, Angela Merkel, avec les présidents des Länder, a régulièrement, je crois,
les
tous
Länder
les 10 jours,
des compétences des réunions que n'ont pas les présidents de région en
et France.
Et une
autonomie.
Nous nous occupons d'économie. La question économique est essentielle. Nous avons la gestion des lycées, d'une partie du personnel des lycées et également des locaux, également des transports. Vous ne pensez pas... Alors, nous parlons avec le préfet, les préfets, nous parlons avec le directeur général de l'ARS, mais à un moment donné, notamment quand il y a eu la question des réouvertures et des protocoles, vous comprenez bien quand même qu'une réunion de travail avec le ministre de l'Éducation nationale, ministre des Transports, serait eu du sens. Et nous ne sommes pas 3000. Nous sommes moins de 20 présidents de région.
13.
Donc quand on veut... Et l'Outre-mer.
Oui, l'Outre-mer.
Et l'Outre-mer. Quand on veut... On peut. Et je suis intimement convaincu, c'est pour ça d'ailleurs que je souhaite maintenant que l'on change tout cela, parce que la crise du Covid, c'est l'acte de décès du centralisme parisien tel qu'on le connaît. Et c'est pour ça que je souhaite maintenant qu'il y ait une république des territoires, pour que l'on ne fonctionne pas sans État, mais que l'on donne davantage de responsabilité à l'échelon le plus proche. Vous voulez de l'efficacité ? Il faut de la proximité et du bon sens.
Un petit mot, Xavier Bertrand, sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a estimé que l'année 2021 devait marquer la fin du quoi qu'il en coûte. Est-ce raisonnable ?
Il faudra, à un moment ou à un autre, sortir du soutien tel qu'il a été mis en place. Et heureusement d'ailleurs qu'il a été mis en place. Mais encore une fois, ça avait du sens. Il vaut mieux garder du chômage partiel qu'avoir des salariés qui sont... au chômage et qui perdent le lien avec leur entreprise. Nous savons toutes et tous que ça ne pourra pas durer indéfiniment. Mais en revanche, il faudra accompagner au fur et à mesure et ne pas arrêter brutalement les dispositifs d'aide. On sait qu'il y a aussi des commerces. Nos restaurants, tous nos commerces vont enfin réouvrir. Il est évident qu'ils ne pourront pas tourner avec le même nombre de clients.
Vous savez
Donc il faudra les accompagner. Ah, j'aimerais bien le savoir.
Nous
j'aimerais
aussi.
Bien le savoir parce que ça nous concerne également au travers de nos régions. Donc vous voyez, à chaque fois, il faut éviter la brutalité et comprendre que c'est pas seulement leur intérêt, c'est aussi notre intérêt que de les garder en activité, de les garder demain et aussi après-demain.
Nathalie Saint-Cricq.
Vous comprenez qu'il puisse y avoir éventuellement une sorte de flou sur la date des réouvertures, c'est-à-dire qu'on dise mi-mai certes ou peut-être vers mi-mai. Est-ce que vous créditez le gouvernement de peut-être ne pas avoir tous les éléments et même si ça doit durer 15 jours de plus, il faut dire aux Français qu'il faut l'accepter.
Cette épidémie a un caractère évolutif phénoménal. Et les variants ne font qu'accentuer justement cette tendance. Donc il est évident qu'ils ont des éléments dont nous ne disposons pas. Les éléments, par exemple, dont je dispose dans la région des Hauts-de-France montrent que nous pouvons repasser dans certains départements sous un taux d'incidence de 400. C'est pas tout à fait la même chose dans les départements proches de l'Île-de-France. Donc ça dépend de tout cela. Il y a quand même aussi des facteurs sur lesquels, honnêtement, quel que soit le taux d'incidence, expliquez-moi pourquoi nos musées, sont restés fermés aussi longtemps. Il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus de touristes étrangers. Et il n'y a rien de plus simple que d'organiser des créneaux. Regardez notamment nos étudiants. On aurait très bien pu organiser des créneaux où ils pouvaient visiter les musées. Et après, pour d'autres personnes. Là, je ne comprends pas pourquoi on est allé aussi loin dans cette forme de... Comment dirais-je une forme de raideur par rapport à cela. Parce qu'il n'y a rien de plus simple. Et vous avez aussi la question des commerces, les commerces de proximité. On a des lieux de culture où on pouvait organiser les choses, avec une jauge singulièrement réduite, mais de maintenir cette vie culturelle. Donc là, il y a des choses pour lesquelles, soit ils ont des éléments scientifiques, et ça aurait été bon, d'ailleurs, de les divulguer, mais il y a des choses qu'on ne s'explique pas, même si, encore une fois, il est évident qu'à partir du moment où vous limitez les interactions, et vous le voyez, vous limitez très clairement les risques de contamination.
Alors la vie démocratique, Karine Bécard.
Alors il y a une question qui se pose également, c'est autour du plan de relance. Ce plan de relance, il a été échafaudé juste après le premier confinement. Est-ce qu'il est grand temps en fait de le réviser, ce plan de relance, ou est-ce que celui qui a été imaginé est le bon ? Il faut le garder.
Xavier Bertrand.
Il y a le plan Biden qui change fondamentalement les choses. À partir du moment où les États-Unis mettent en place un tel plan de relance, l'Europe
doit suivre.
Évidemment, parce qu'autrement vous allez avoir une distorsion dans la compétition qui va s'ouvrir. Et puis il faut aussi regarder les choses jusqu'au bout. C'est que la façon dont Monsieur Biden met en place son plan de relance, c'est un plan de relance pour les États-Unis d'abord. Et donc si nous ne comprenons pas qu'il faut changer le volume de notre plan de relance, mais aussi s'armer, je dis bien s'armer, pour faire face à ce que veulent les États-Unis, là, on sera perdant sur toute la ligne. Et on doit en terminer soit avec une forme de naïveté, ou aussi une forme d'égoïsme de certains pays. La vraie réponse, notamment à ce que est en train de faire Monsieur Trump, après, la politique ne changera pas énormément, la politique économique entre Trump et Biden, notamment sur les achats américains, Buy America First, c'est clairement d'avoir un Buy European Act, c'est-à-dire une préférence européenne. Autrement, nous nous ferons complètement avoir dans la compétition et nous y perdrons en termes d'emploi et d'activité économique.
Mais vous dites qu'il faut effectivement redevenir keynésien comme sont en train de redevenir keynésiens les États-Unis.
Évidemment, d'ailleurs, dans la République des territoires que j'appelle de mes voeux, je veux mettre en place des programmes d'investissement dans les infrastructures dans tout le pays, que ce soit sur les routes, que ce soit sur le fluvial, que ce soit sur les trains, que ce soit dans les infrastructures numériques, il est temps de réaménager le territoire français.
Mais vous n'en avez pas les moyens, et j'aimerais qu'on s'arrête un moment justement sur vos compétences et sur ce que vous pouvez faire. Le discours du président de la République du 8 avril dernier était à cet égard éloquent. On a beaucoup retenu, essentiellement la suppression ou la modification de l'ENA, mais le président Macron disait qu'il y avait deux institutions en France qui étaient des institutions structurantes, les départements et les bassins de vie. Il n'a pas parlé des régions et vous revendiquez aujourd'hui la possibilité pour les régions d'agir là où l'État agit aujourd'hui avec d'autres que vous.
Vous trouvez aujourd'hui que le fonctionnement de l'État donne satisfaction ? Moi non. Et les Français non plus. Les Français veulent donner des compétences aux collectivités locales, à leurs élus locaux, parce qu'ils sont près d'eux, parce qu'ils sont à portée de baffes, portées d'engueulades si vous le souhaitez, et qu'ils savent tenir compte des véritables besoins. Moi, je ne veux pas...
Mais vous comprenez qu'Emmanuel Macron n'ait pas parlé des régions ?
Bah, bien sûr, j'ai compris, attendez, pas naïf. Hein. Je vous ai dit, j'ai plein de défauts, mais certainement pas la naïveté.
Non, mais nous le sommes.
Non, vu votre sourire, vous ne l'êtes pas un seul instant. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, si vous le permettez. Aujourd'hui, le système centralisé de fonctionnement, et on l'a vu avec les agences régionales de santé dans la gestion du Covid, quelle que soit la qualité des personnels, ça n'a pas fonctionné. Si vous êtes sur une gestion d'une crise sanitaire, la responsabilité doit être celle de l'État via les préfets. Et demain, le pilotage du système de santé dans les territoires, ça doit être confié aux départements et aux régions, les deux ensemble. Voilà ce pourquoi j'appelle de mes voeux un changement profond de notre façon de gérer la France, mais aussi c'est un changement de modèle de société. Et vous me dites, mais à quel titre vous faites ça ? C'est pour cela aussi que je suis candidat à l'élection présidentielle et que je veux être président de la République. Parce que l'impulsion, elle vient d'en haut. Si la réforme de l'État consiste à changer le nom d'une école, mais bien évidemment qu'il ne se passera rien. Et je voudrais vous dire plusieurs choses à ce titre. Moi-même, j'ai appelé de mes voeux la transformation, la suppression de l'ENA, voilà bien longtemps. Parce que pour moi, elle était synonyme de centralisation outrance, et surtout, elle est aussi la marque d'une administration qui est plus tournée vers le contrôle que vers l'accompagnement. L'accompagnement des Français, des citoyens, des entreprises. C'est cette révolution-là qu'il faut faire. Je veux que l'État soit fort. Mais je veux que l'État soit fort pour assurer notre sécurité, pour renforcer la justice, pour garantir la laïcité et lutter contre le terrorisme, pour notre diplomatie en redéfinissant les intérêts français, pour mieux contrôler l'immigration. Mais pour le reste, je veux que ce ne soit plus à Paris que se gèrent les politiques économiques, les politiques de logement, les politiques de santé, les politiques de transport. C'est la seule façon d'être demain efficace. Et pour cela, je vous l'ai dit, c'est pas seulement un transfert de compétences. Je veux que nous puissions investir, je dis bien investir, pour pouvoir mettre la France à niveau. Et je ne suis pas, en ce qui me concerne, moi, dans un débat contre les fonctionnaires, je trouve même indigne le procès qui est fait aux fonctionnaires. Les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ont le sens de l'État dans notre pays. Mais par contre, c'est aux politiques, c'est aux chefs de l'État de dire quel est le rôle de l'État. Quelle est la fonction de l'État? Quelles sont ses missions?
Non, mais attendez, vous êtes un peu contradictoire, parce que vous dites, voilà, les hauts fonctionnaires, finalement, je les aime beaucoup. Donc, il faut l'ENA ou il faut pas l'ENA? Parce que
je vous disais
à l'instant qu'il faut le supprimer. Non. Donc,
je pense que vous avez bien compris. Mm-hmm. J'étais moi-même pour la transformation, suppression de l'ENA depuis bien longtemps, voilà. Pour les raisons que je vous ai expliquées.
Mm-hmm. Donc, vous applaudissez l'annonce d'Emmanuel Macron, de la suppression de l'ENA.
Mais encore une fois, la différence, moi, je suis pas dans le paraître. Moi, je suis dans l'être. Je veux faire les choses et je veux changer les choses. La logique n'est pas de changer le nom d'une école, ce que je viens d'expliquer à l'instant. C'est de changer les choses en profondeur. Et de donner aussi un sens au rôle des fonctionnaires et de ne pas les laisser un peu comme des cibles, comme ils l'ont été justement dans ce débat. C'est le politique qui est responsable. Vous savez, à mes yeux, la responsabilité politique, elle se délègue pas et elle ne se partage pas. C'est au chef de l'État de dire quel est le rôle de l'État et quel est quelles sont les conditions pour
quelles sont les institutions structurantes.
À ce propos, Laurent Wauquiez, qui effectue un grand comeback, ou du moins dans le Figaro, par une grande interview, propose le spoil system. C'est-à-dire qu'on considère que, en gros, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il faut disposer d'un volant de hauts fonctionnaires qu'on fait partir, on prend les siens de manière à être efficace. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous considérez que c'est un bon système? De manière à avoir une sorte d'administration de mission qui sont des gens qui pensent la même chose politiquement que le président, de manière à pouvoir faire appliquer sur le terrain sa politique.
Je veux aller beaucoup plus loin parce que je souhaite que les responsabilités qui sont assurées à Paris soient des responsabilités bien moindres qu'aujourd'hui. L'État doit aussi pouvoir assurer la régulation, fixer un cadre. Mais pour le reste, moi, je fais par exemple confiance aux préfets et j'estime que les préfets devront avoir la possibilité d'adapter la loi nationale. Vous avez une loi SRU sur le nombre de logements sociaux. Elle est uniforme, 25%. Sauf qu'on ne regarde pas que dans certaines communes, il n'y a plus la possibilité de construire. Donc autant dire qu'on leur met une amende directement. Vous avez les textes qui sont en train de passer sur l'artificialisation des sols. Mais bon sang, il n'y a pas deux régions qui se ressemblent. Il n'y a pas deux territoires qui se ressemblent. Dans certains endroits, la loi appliquée de la même façon, ça veut dire qu'on va mettre des territoires sous cloche. Moi, dans ma région, j'ai besoin de développer l'emploi. On a réussi à faire baisser le chômage, ça ne me suffit pas. Je continue à me battre pour l'emploi. Mais si on me dit demain que je ne peux plus installer autant d'entreprises que je le souhaiterais, mais bon sang, qu'est-ce que j'explique à ma population? Qu'est-ce que j'explique aux gens qui veulent sortir du chômage? Voilà pourquoi, encore une fois, on a besoin de davantage de souplesse, de pragmatisme. Et pour avoir de l'efficacité, il faut que vous soyez le plus proche du terrain, le plus proche. Et puis,
mais est-ce que
avec
du
bon
sens. Ma question, c'était du spoil system.
Je vous ai dit que je voulais aller plus loin.
Alors,
non mais du coup, on va passer au portrait dans un instant, Xavier Bertrand. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que vous êtes candidat à la présidence de la République, mais vous voulez largement la vider de ses pouvoirs actuels.
Alors,
soit depuis le début,
j'ai
pas été. D'un côté, la proximité, celle du président de région, de l'autre, l'importance de l'échelon national, et c'est donc la présidence de la République. C'est pas contradictoire, de manière contradictoire, d'envisager la politique?
Le projet de redressement que je veux porter, il s'articule autour de l'autorité, autour du travail, de la valeur travail et autour d'une république des territoires. Et il n'y a que le président de la République qui peut à la fois porter cela, donner l'impulsion et s'assurer que les choses seront clairement établies et rétablies. La question de l'autorité, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans cette émission.
On va y venir juste après le portrait.
La sécurité aujourd'hui n'est plus assurée sur notre territoire comme elle le devrait. La justice n'inspire plus confiance comme elle le devrait dans notre pays. Je voulais aussi indiquer sur les enjeux diplomatiques avec les intérêts de la France qui doivent être redéfinis. Une politique migratoire, une guerre contre l'islam politique, contre les islamistes. Tout cela, vous pensez que c'est décharger le président de la République de ses responsabilités? C'est au contraire, montrer qu'il a conscience de ce que sont les enjeux prioritaires et s'assurer de cela matin, midi et soir et plus encore.
Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, est notre invité ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, question politique.
C'est la tradition, Xavier Bertrand, votre portrait signé Karine Bécard.
Vous êtes sans cesse candidat en 40 ans d'itinéraire politique. Avez-vous une idée, Xavier Bertrand, du nombre de fois où vous avez prononcé ce mot-là, candidat. Parce qu'il y a 18 mois, vous annonciez déjà que vous étiez donc candidat à votre succession à la région. Ça, c'était il y a 18 mois. Et puis, il y a un petit peu moins d'un mois, vous avez assuré cette fois que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle. Comme vous y étiez également engagé pour la précédente, avec 4 ans d'avance, mais on y reviendra. Postuler, gagner, avancer. Vous avez tout de suite compris, Xavier Bertrand, qu'il fallait d'abord vous implanter localement, ce qui vous a pris presque 20 ans. À 16 ans, vous commencez à militer. À 24, chez vous, dans l'Aisne, à Saint-Quentin, vous devenez conseiller municipal. Et ensuite, étape classique, les élections cantonales.
Je continue à travailler comme j'ai toujours fait, en étant un élu de terrain, disponible, présent, à l'écoute. Mais ce résultat me permet aussi de continuer dans la lignée de ce qu'a fait Jacques Braconnier, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait faire mes premiers pas en politique. Et ce soir, je suis heureux, avec cette élection, de pouvoir lui rendre hommage.
Vous n'avez pas tellement changé. 1998, de l'écoute, de la présence, de la disponibilité. Dites-vous, ce triptyque, vous n'avez jamais cessé de le répéter. Alors vous remerciez le sénateur Jacques Braconnier qui vous a mis le pied à l'étrier, mais c'est surtout Jacques Chirac, le premier, qui vous a vraiment donné envie de vous engager. À peine élu député, vous devenez ministre de Chirac. À ce moment-là, Xavier Bertrand, vous avez 39 ans et vous ne serez plus candidat à rien parce que tout va vous être donné. Deux fois ministre de la Santé, porte-parole du candidat Sarkozy, puis deux fois ministre du Travail, sans oublier patron de l'UMP. Ce sentiment tout à coup d'être ou de vous croire absolument important va durer tout de même un petit peu plus de 7 ans, jusqu'en 2012, quand vous serez réélu de justesse à l'Assemblée, mais vous allez en réalité assez vite l'oublier.
Je serai candidat à la primaire pour l'élection présidentielle de 2017. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne me lance pas dans la compétition pour la présidence de l'UMP.
Résumons-nous. Entre juin et septembre 2012, vous êtes candidat, Xavier Bertrand, à la présidence du groupe des députés à l'Assemblée, candidat à la présidence du parti de l'UMP et candidat donc à la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle avec 4 ans d'avance, ce qui est tout à fait impressionnant. Sauf que, sincèrement, dans la bataille entre Fillon et Copé, vous aviez peu de chance de vous imposer, donc vous avez préféré décliner. Quant à la primaire face notamment à Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé, il était sans doute là aussi préférable d'abandonner. Pour décrocher la région des Hauts-de-France, battre Marine Le Pen et apparaître métamorphosée.
Cela fait 30 ans, 30 années, que l'ensemble de la classe politique dont je fais partie explique qu'elle a reçu le message, qu'elle a tout compris, que plus rien ne sera comme avant, et pourtant, qu'a-t-elle fait cette classe politique ? Le résultat de ce soir nous oblige à rester humbles. Je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai vécu pendant cette campagne. Cela changera, à jamais, ma façon de faire de la politique.
Vous êtes-vous objectivement transformé, Xavier Bertrand ? Ce 13 décembre 2015, le ton semble étonnamment juste, mais à 56 ans, vous avez gardé, comme bien d'autres, la même ambition teintée de cette même détermination. Reste à savoir si vous pourrez et si vous oserez cette fois aller effectivement jusqu'au bout.
Xavier Bertrand.
Vous me posiez la question, est-ce que ce moment-là m'a profondément changé ? La réponse est oui. Parce que j'ai vu la mort de la politique. J'ai vu des habitants de la région me dire « Non, mais attendez, on va pas vous écouter, on va pas discuter avec vous. Tout ce que l'on vit, toutes nos difficultés, c'est vous qui en êtes responsable. » J'avais beau leur dire « J'ai jamais été Premier ministre, jamais été président. » Non, non, vous avez été ministre. Vous avez été député, alors vous êtes responsable, comme les autres, dégagé. Et je suis élu dans des circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire que je réalise au premier tour, avec mon équipe, un score plus important que ce que fait la droite dans cette région. Je suis deuxième. Et le Parti Socialiste, Pierre de Saint-Aignan, décide de se retirer parce qu'ils ne veulent pas de l'élection de Madame Le Pen. Et je comprends aussi ce jour-là que ce geste, qui est pour faire barrage à ce que représente l'extrême droite, il doit aussi rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que je reste fidèle à ceux qui m'ont fait confiance dès le premier tour. Mais je comprends ce soir-là, surtout quand vous êtes élu face aux extrêmes, que vous ne devez pas être uniquement lié avec ceux du premier tour. Vous devez aussi penser à ceux qui ont voté pour vous comme à ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et aussi à ceux qui n'ont pas voté du tout. Qui n'ont pas voté du tout. Et c'est-à-dire qu'il y a une logique qui s'impose. Vous devez rassembler. Pas vous renier. pas renier mes idées, je suis toujours un élu de droite, d'une droite républicaine, d'une droite populaire, mais ça veut dire que vous ne devez pas piétiner les autres, vous devez respecter leurs idées, mais vous devez tout simplement avancer. Et c'est ça que j'ai vu. Et la raison, juste en termes de chronologie, je ne suis pas candidat à l'élection primaire, je l'annonce au lendemain de cette élection. Je l'annonce au lendemain de cette élection, c'est pas avant que j'y renonce. Alors, c'est au lendemain de cette élection, parce que j'ai vu que si je veux essayer de réconcilier avec la politique, il va falloir s'y consacrer totalement.
Solène de Royer, puis Nathalie Saint-Cricq, le temps passe.
Vous voulez échapper aux primaires, Xavier Bertrand. Une question très simple, comment convaincre votre ancien parti LR de vous soutenir à la présidentielle?
Parce qu'il ne s'agit pas seulement de convaincre un parti, il s'agit de convaincre les Français. Un parti, la droite, la gauche, moi mon projet c'est pour la France, c'est pour les Français. Et je suis intimement convaincu aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'il y ait de filtre, il ne faut pas qu'il y ait de barrage, pas de barrière entre le projet que je porte, qui je suis, et les Français. Et c'est aussi pour ça que je suis parti en campagne très tôt, parce que je suis prêt, mais je sais aussi qu'il faut aller à la rencontre des Français. Il y a un certain nombre d'idées que j'ai posées sur la table, mais maintenant je veux aussi en parler, les améliorer, les expliquer aux partenaires sociaux, aux élus locaux et aussi aux Français. Et c'est la raison pour laquelle la campagne des régionales sera pour moi aussi l'occasion d'expliquer le projet. La République des territoires, ça concerne la région des Hauts-de-France. Toutes les régions de France, ça concerne la France. C'est la même logique, c'est la même cohérence.
Donc, c'est-à-dire, vous considérez qu'à un moment donné, vous serez le candidat naturel, on entend beaucoup cette expression, de la droite. Et un candidat naturel, ça se voit à quoi? Ça se voit au sondage? C'est ça la nouvelle règle pour déterminer finalement les candidats à la présidentielle?
Ne vous inquiétez pas, ça se verra. Ça se verra, et je crois beaucoup.
Ça se verra comment?
Il faudra que ça se voit. Et je crois beaucoup. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, enfin, tous les gens qui ont Bruno Retailleau, tous ceux qui aimeraient bien que ça se voit pour eux aussi. Donc, je voudrais juste savoir comment ça se verra.
Et je crois beaucoup à la dynamique. La dynamique, elle se fait parce que votre projet rencontre de l'écho. Et regardez ce qui s'est passé. Vous m'invitez aujourd'hui. On parle beaucoup de la candidature à la présidentielle, malgré tout le contexte du Covid, malgré tout le drame du Covid. Pourquoi? Parce que il y a énormément de Français qui veulent une alternative républicaine, au duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen.
C'est-à-dire que ça va s'imposer à un moment donné?
Mais d'ores et déjà, trois quarts des Français ne veulent pas de ce duel. Je veux juste vous expliquer. Ne veulent pas de ce duel, parce qu'ils savent que ça conduira à une crise, alors que le pays il a besoin d'espoir et d'apaisement. Que ça conduirait ce duel Macron-Le Pen-Le Pen-Macron à de nouvelles crispations, à de nouvelles divisions. Ils veulent autre chose. À moi de porter justement mon projet. À moi d'expliquer comment je veux faire, dans une logique de rassemblement. Et nous verrons dans les semaines et dans les mois qui viennent, est-ce que je crée cette dynamique, oui ou non? Je sens d'ores et déjà qu'il y a nombreuses personnes, au-delà même de LR, qui adhèrent justement à ce projet. À moi de l'expliquer. À moi de l'expliquer et d'expliquer aussi pourquoi. Pourquoi c'est un projet qui est basé sur le redressement? Pourquoi sur l'autorité? Moi, vous savez, je suis pas un candidat de l'ordre pour l'ordre. Mais c'est de l'ordre pour bien vivre, pour mieux vivre. Pourquoi le travail? Parce que j'ai été profondément marqué par la crise des Gilets jaunes. Le message du début des Gilets jaunes, pas les violences des Black Blocs, du début des Gilets jaunes, qui était, le message, il était double. Nous travaillons et nous n'arrivons pas à nous en sortir, on n'arrive pas à faire plaisir à nos enfants. Moi, ce message-là, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié dans ma région, où nous avons mis en place des aides pour ceux qui travaillent, qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Ils habitent plutôt en milieu rural, bien souvent, mais aussi pour la garde d'enfants et même au moment du Covid, pour tous ceux qui avaient dû travailler, qui n'étaient pas des personnels de santé, qui n'avaient pas reçu de primes, ni de l'État, ni de leur employeur, on avait mis en place une aide de 200 euros pour les récompenser, pour leur dire merci, sous forme de chèques vacances qui étaient en plus consommés dans la région, donc avec un effet économique.
Même si votre autorité sur la formation professionnelle a été largement reniée, en l'occurrence par le pouvoir central.
73 000 familles en ont bénéficié. C'est la valeur travail, parce que le travail doit aussi payer et être reconnu.
Mais votre droite, c'est une droite sociale, du coup? C'est une droite populaire? C'est une droite populiste?
Je viens de vous le montrer.
Elle se situe où, en fait?
Je viens de vous le montrer, avec des exemples très concrets. Je suis pragmatique. Je ne me contente pas de faire des discours parce que en 2015, j'en disais, mais les discours, on en a marre, ça sert à rien. Concrètement, vous allez faire quoi pour nous? Et c'est ces mesures-là, l'aide au transport, des aides pour retrouver un emploi, des aides notamment pour ces salariés, ces secondes lignes, c'est du concret dans la région.
Mais vous citiez Trump tout à l'heure. Est-ce que ça peut être effectivement un modèle? Est-ce que le populisme, malgré tout, c'est un gros mot ou pas?
Xavier Bertrand.
Certainement pas un modèle.
D'accord.
Si j'ai des modèles, c'est dans la vie politique française, mais c'est pas Monsieur Trump. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut se battre. Et il faut se battre pour les intérêts de la France, il faut se battre pour les intérêts des Français. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un autre message des Gilets jaunes. Cet autre message, c'est quand on n'habite pas dans les métropoles, on n'est pas pour autant des citoyens de seconde zone. On veut des services publics. On veut qu'il y ait de la santé, de l'éducation. On veut également qu'il y ait de la culture. On veut des moyens de transport dignes de ce nom, d'où cette République des territoires. Vous voyez, je suis parti à chaque fois des constats qui auraient dû d'ailleurs être beaucoup plus pris en considération. Les Gilets jaunes, c'est le dernier avertissement avant une secousse terrible dans notre pays. Et moi, je veux y apporter des réponses. Je ne suis pas un sociologue, je suis un responsable politique qui veut devenir président de la République pour apporter des solutions aux problèmes des Français et aux problèmes du pays.
Deux choses précises. Vous pensez que ça se jouera sur le régalien aussi, sécurité, justice? Vous trouvez que l'état de la France est inquiétant pour l'instant? Emmanuel Macron fait un déplacement sur la sécurité du quotidien demain, je crois, à Montpellier. Est-ce que vous trouvez que des choses se sont dégradées en France? Sécurité, justice.
C'est un constat d'échec total de sa part.
Total.
Parce que je pense qu'il y a un problème de compréhension de ces enjeux. Depuis 4 ans, il n'a jamais pris la mesure que le rôle du président de la République était déjà d'assurer la sécurité de ses concitoyens. C'est la raison pour laquelle le rétablissement de l'autorité, je le redis, c'est pas de l'autorité pour l'autorité. C'est tout simplement pour que l'on puisse à nouveau vivre en sécurité. Il y a tout un enjeu sur nos forces de sécurité. Il leur faut des moyens humains, il y en a plus depuis quelques années. Oui. Il leur faut des moyens matériels, mais il faut aussi leur donner des consignes, des instructions claires, et il faut les soutenir, les protéger.
Mais Gérald Darmanin le fait, non?
C'est le rôle du président de la République d'être clair en permanence. On ne peut pas dire qu'on soutient les forces de l'ordre et avoir le t-shirt d'un auteur de bande dessinée sur les violences policières à Angoulême. On ne peut pas, sur brut, utiliser, reprendre même le mot de violence policière. Il faut être cohérent quand on est président de la République. Et le soutien aux forces de l'ordre, il n'est pas à géométrie variable. Elles doivent être exemplaires. Elles le sont. S'il y a des dérapages, des actes qui sont contre la loi, ils doivent être durement sanctionnés. Mais on soutient les forces de l'ordre, comme on soutient aussi les forces de l'ordre et leur environnement familial. Je suis
marqué. Est-ce que vous applaudissez, Xavier Bertrand, à la justice du quotidien, à la justice de proximité?
Juste terminer. Il y a un autre point qui est marquant. On n'est pas dans les films, on est dans la réalité. Vous avez de plus en plus de policiers, voire parfois de gendarmes, qui voient leur famille menacée. J'ai des exemples dans ma région. Parlant avec eux quand ils m'expliquent leur quotidien, parfois ils ne font plus les courses avec leur famille le week-end quand ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne veulent pas justement être reconnus. Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine, où il y a eu, dans une cage d'immeuble, les photos des proches. Vous ne pouvez peut-être pas éviter qu'il y ait ce type d'acte. Mais elle était où, la riposte? On fait quoi pour réagir aussitôt? Pour justement, dans le quartier en question, interpeller tous ceux qui doivent l'être et les traduire devant la justice. Parce que si on commence, ceux qui nous protègent, et ils nous protègent parce que derrière, c'est la vie en société. Si on n'est pas capable de les protéger, c'en est fini. Et vous aurez quoi? Vous aurez tout simplement de l'autodéfense. Vous avez des gens qui ne seront plus confiants, des gens qui vivront séparés les uns des autres. Ça n'est pas pensable.
Et la campagne présidentielle n'a pas encore commencé. Il y a une politique.
Il y a
une politique sur la justice aussi. Nathalie l'évoquait rapidement. Quand vous entendez parler d'une justice de proximité, d'une justice du quotidien, pourquoi n'applaudissez-vous pas?
Parce que je veux une justice efficace. La question, Nathalie Saint-Cricq me le disait à l'instant, il y a la question de la sécurité. Et dans la sécurité, il y a la réponse pénale. La réponse pénale, aujourd'hui, n'est pas au niveau. Et je ne suis pas de ceux qui, par facilité, vont faire le procès des juges. Quand une loi ne convient pas ou n'est pas suffisante, on la change. Et dans les projets que je porte, dans le projet sur le rétablissement de l'autorité, il y a une part très importante pour la justice. Et un renforcement des moyens, oui, mais des moyens juridiques pour protéger les Français. Un exemple. On s'en prend à un policier, un gendarme, un pompier ou un maire. La peine de prison doit être automatique. Il y a bien sûr la possibilité de graduer, c'est l'individualisation des peines. On s'en prend à eux, il y a un minimum automatique. C'est quelque chose pour moi avec lequel on ne transige pas, parce qu'il n'y a plus de respect de rien. Vous avez ensuite un autre aspect. Vous êtes condamné avec du sursis. La deuxième fois, le sursis tombe. Et aujourd'hui, la prison, surtout pour les courtes peines, ça n'est plus la solution voulue. Je le dis très clairement. Je veux construire des places de prison, pas toutes les mêmes places. parce qu'il faut qu'il y ait des prisons qui sont sur un format différent. Il faut aussi qu'il y ait, sur tout ce qui est psychiatrie légale, un renforcement des moyens très important. Mais c'est 20 000 places, et c'est pas moins. Là, aujourd'hui, on est encore une fois en dessous de cet objectif de 20 000 places. C'est la seule façon de pouvoir permettre à la justice d'être clairement efficace.
Solène de Royer, le projet de loi pour une sécurité globale vient d'être adopté par le Parlement. Vous l'auriez voté, vous ?
Oui.
D'accord, c'est clair.
Karine Becker.
On vous entend donc sur l'autorité, le travail, les territoires, très bien. On vous entend peu sur les questions d'écologie qui sont malgré tout aussi, me semble-t-il, au cœur de débats, au cœur des inquiétudes des Français. Vous vous affichez pro-nucléaire, anti-éolienne si j'ai bien suivi.
Vous avez bien suivi.
Comment réduire malgré tout de 40% les émissions de CO2 dans notre pays ? Quel chemin est-ce que vous pensez emprunter ?
Tout d'abord, prôner une énergie décarbonée. Le nucléaire.
Ça ne suffira pas pour baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre.
Commençons déjà par cela. Si je suis élu président, c'est dès l'été 2022 que je prendrai la décision de lancer les nouveaux réacteurs. Je n'attendrai pas, je ne tergiverserai pas, je n'attendrai pas un an et demi de plus. Je prendrai cette décision très clairement. Et encore une fois, il faut dire la vérité et être totalement transparent sur les intentions. Deuxièmement, nous avons besoin sur l'industrie. Je veux réindustrialiser le pays, d'avoir une industrie décarbonée. C'est le recours massif à l'hydrogène. Il faut que l'on prenne un maximum d'avance en la matière. Et puis sur les énergies renouvelables, il n'y a pas que l'éolien quand même. Pourquoi j'ai cette position sur l'éolien ? Parce que j'ai vu, aujourd'hui, dans une région comme la mienne, c'est que nous avons des projets, encore des projets, sans tenir compte de l'avis des populations et sans tenir compte aussi de l'impact financier. Sur le photovoltaïque, je ne vois pas pourquoi on ne met pas le même accent. Je ne vois pas pourquoi sur toute l'énergie marine, on ne met pas le même accent. C'est éolien, éolien. Et je suis encore une fois désolé de vous dire que tous ceux qui font la promotion de l'éolien, j'en vois très peu habiter au pied d'une éolienne. Et encore une fois, il nous faut changer les textes parce qu'on ne peut plus imposer des projets éoliens comme c'est le cas aujourd'hui. Le gouvernement avait fait des promesses, ils n'ont pas tenu ces promesses. Dans ma région, pour commencer, mais au sommet de l'État, je changerai complètement notre politique en matière d'énergie renouvelable. Mais il y a aussi la question, je vous ai parlé de l'industrie, des transports.
Mais pensez-vous que les populations sont contentes d'habiter près d'une centrale nucléaire ?
Pardon ?
Est-ce que les populations sont contentes d'habiter près d'une centrale nucléaire ?
Demandez-leur.
Mais justement, je vous pose la question.
Je vois Gravelines notamment. Et d'ailleurs, je souhaite que dans ma région, parce que Gravelines aura une date de fin de vie, c'est qu'il y ait un nouveau réacteur. Et encore une fois, je suis très clair sur toutes ces questions. Les élus locaux sont aussi très clairs et favorables. Et s'ils sont élus, c'est que la population y est aussi favorable. Une chose est certaine, il n'est pas question de transiger avec la sécurité. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais vous me posiez la question de l'écologie. Moi, je veux une écologie de progrès. Luc Ferry est sur cette logique de l'écomodernisme. Il a raison. C'est que nous ne réussirons à relever ces défis écologiques parce que nous aurons aussi des innovations, du progrès, depuis le temps que nous parlons.
Mais en 5 ans, dans votre région, par exemple, il y a eu des innovations sur les mobilités. Vous avez mis en place des mobilités alternatives, par exemple, comme on essaie d'en mettre dans d'autres villes.
Je mets le paquet sur les transports en commun. Bien évidemment, nous sommes engagés notamment sur des trains à propulsion par batterie électrique. Nous avons également implanté un constructeur de bus qui fait des bus électriques. Et nous avons aussi, c'est chez nous qu'il y a eu la première ligne de bus à hydrogène. Donc vous voyez, on est engagé là-dessus et nous avons aussi engagé une autre démarche qui s'appelle la troisième révolution industrielle. C'était le concept de Jérémy Rifkin, porté par mon prédécesseur Daniel Percheron avec Philippe Vasseur, où nous marions l'industrie, la transition digitale et la transition écologique. Et aujourd'hui, plus de 1300 projets sont devenus réalité avec des emplois. Donc, je ne suis pas pour la décroissance. Mais je pense aussi que si nous voulons réindustrialiser notre pays, on doit marier les deux, mais certainement pas dire aujourd'hui que tout ce qui est développement économique doit passer après. C'est pas pensable.
Nathalie.
Attendez, je voudrais juste comprendre quelque chose. Un certain nombre de leaders politiques considèrent que le nucléaire, c'est une énergie de transition. C'est-à-dire que certes, c'est pas le rêve, mais que c'est quand même moins pire que le charbon, pour faire simple. Vous considérez que c'est une énergie d'avenir ?
Je pense que c'est
sans
une énergie d'avenir.
Sans aucune réticence.
Une énergie d'avenir, je ne suis pas capable de vous dire dans un siècle, dans deux siècles, d'accord, si avec les progrès
mais
technologiques,
pas,
il y a d'autres choses.
Parce qu'on peut pas faire mieux. Vous dites, ça me pose aucun problème.
Moi, ça ne me pose aucun problème, d'accord, parce que derrière, il y a aussi autre chose. C'est que je vous ai parlé d'une énergie décarbonée, et j'ai l'industrie. J'ai l'industrie du nucléaire,
c'est-à-dire
toute une filière avec des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. C'est en plus tout un point sur lequel la France a de l'avance. La France est aussi synonyme d'excellence. Je n'ai pas envie que l'on perde cette avance, parce que c'est aussi ce qui permet à nos concitoyens d'avoir une facture d'électricité qui leur coûte beaucoup moins cher qu'en Allemagne. Et après, il y a aussi un autre aspect. Quand vous prenez les classements internationaux, la France en Europe, en termes de rejet, n'est pas la plus mal placée. Bien au contraire. Donc nous devons bien évidemment continuer à être à la pointe, notamment avec les accords de Paris, mais il faut aussi bien voir qu'on a besoin de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Mais aussi, il faut parler des problèmes de pollution de l'air, de pollution de l'air intérieur. Je suis aussi ancien ministre de la Santé, Santé-Environnement, ça me parle. Et puis aussi de voir comment on peut mieux valoriser la biodiversité. Ça
et
aussi,
ça,
c'est quelque chose d'important.
Ce sont des thèmes de la prochaine campagne présidentielle. La ministre chargée de la citoyenneté...
Je répondais aux questions.
Bien sûr, non, mais vous faites bien. Mais c'est vrai que ce sont autant de sujets qui seront débattus pendant la présidentielle. Espérons-le. La ministre...
Et même dans les élections régionales, parce que je continuerai à
porter
ce projet.
Même si ça ne relève pas toujours de vos compétences. Mais la ministre chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, annonce une consultation nationale sur la laïcité. Dès mardi prochain, elle lancera des états généraux de la laïcité. Qu'en attendez-vous?
Il est temps. Il est temps. De toute façon, le combat pour la laïcité est un combat qui est un combat pour la République et aussi plus largement pour la France, parce que la France, c'est la laïcité. Donc il y a un débat, c'est une chose, mais moi je souhaiterais que l'on ait des armes pour lutter contre ceux qui s'en prennent à la laïcité.
Et quelle est votre vision de la laïcité, Xavier
Bertrand ? Et la question, c'est les islamistes. Les islamistes, aujourd'hui, il ne s'agit pas de leur dire la laïcité est là, il s'agit de leur faire la guerre, parce que c'est la notion même de République française qui est attaquée.
Qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre aux islamistes?
C'est-à-dire se donner les moyens de les mettre hors d'état de nuire, de mettre hors d'état de nuire les terroristes islamiques.
C'est ça, aussi ça de veut dire.
Ça veut dire on les met à vie en prison? Ça veut dire quoi exactement?
J'ai une tête de dictateur.
Bah, je sais pas, Guillaume Pelletier, dont vous êtes très proche du Parti des Républicains, propose de les mettre en centre de rétention.
Je suis quelqu'un qui est très déterminé sur ces questions-là. Je suis pas un énervé, mais je suis quelqu'un de très déterminé. Ça sera eux ou nous. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ça se passera bien. J'ai pas envie que mes enfants plus tard grandissent en baissant la tête, ou en évitant certains sujets de conversation, ou en évitant certains lieux. Donc très clairement, tous ceux qui sont à prêcher contre la France, ceux-là ne doivent pas rester en France. Ils doivent partir.
Même s'ils sont
français ? Ceux qui ne signent pas, tous ceux qui... Soyons sérieux. Écoutez, un court instant, je vous ai dit, je connais l'état de droit, mais je veux tout simplement que le droit protège. Quand vous avez des gens qui prêchent contre la France, qui prêchent la haine de la France et qu'ils ne sont pas français, dehors.
Mais dehors où? Parce que leurs états, en général, ne veulent pas les récupérer, ces gens-là. Donc, en fait, on les met où, concrètement?
Eh bien, vous les mettez dans ces états en leur indiquant que s'ils ne reprennent pas leurs ressortissants, plus aucun ressortissant, du président au ministre, aux entrepreneurs, ne sera accepté en France. Je vous l'ai dit aussi, on est aussi à une époque où il faut comprendre dans les relations internationales que votre détermination doit aussi passer par un bras de fer à chaque fois que ça s'impose. C'est comme ça qu'on défend les intérêts de son pays, c'est comme ça qu'on défend les intérêts des Français.
Quand vous avez des histoires comme la mosquée d'Albertville, vous considérez que la justice a dit le droit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Encore une fois, c'est la loi qu'il faut changer. Et la loi sur les séparatismes qui ne s'applique plus comme cela. Il va y avoir certainement un amendement de dernière minute. Depuis le début.
Vous trouvez que c'est en dessous de ce que ça devrait?
Depuis le début, on dit qu'on n'a pas les moyens de les faire reculer et de lutter contre les islamistes. Oui. Moi-même, j'ai toujours un problème d'ingérence étrangère dans un lycée, le lycée Averroès, qui est un lycée sous contrat. Je dis, il y a eu une aide de Qatar Charity, je n'arrive pas à savoir quelles sont les contreparties, s'il y en a ou pas. Le ministère, sur la question, ne me répond pas. Donc j'ai aujourd'hui engagé une action en justice parce qu'on me somme de payer, je veux savoir ce qu'il en est. Et bien souvent, encore une fois, on laisse les élus. J'ai eu le maire, Berville, vendredi, au téléphone pour voir avec lui, justement, quelle était la nature de son problème par rapport à ce que je vis. C'est encore une fois, la loi doit être changée. Et qui doit décider cela? C'est le chef de l'État.
Dernière question, vous supportez le PSG?
Pas seulement. J'ai le droit d'avoir une préférence?
Bien sûr.
C'est Lens.
Lille Lens. Et que Lille fait des champions. Oui, pardonnez-moi, je préfère. Excusez-moi pour les Parisiens qui nous écoutent, mais.
D'avoir été notre invité, Xavier Bertrand. Question politique se termine à dimanche prochain.